Bonsoir à vous tous. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous adresse ces salutations de la sœur Nicole. Elle est bien arrivée à Kinshasa. Elle vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons reprendre un passage que nous avons lu dimanche. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Avant cela, nous avons prié. Nous te remercions pour cet immense avantage, mon Dieu. Nous avons ce soir pouvoir venir en ces lieux et étant assemblés. Quelques-uns, nous avons le privilège en même temps d'ouvrir ta parole. Nous avons foi en tes promesses, celle d'être présent au milieu de nous, et nous te remercions pour cela, car nous le croyons de tout notre cœur. Et nous te demandons également de bénir ta servante qui a voyagé, qui est bien arrivée. Nous te remercions pour avoir veillé sur son voyage. Maintenant, nous te demandons d'être avec nous pour ce jour, pour cette réunion que nous avons. Que tu nous assistes, que tu parles à nos cœurs, que tu nous encourages, que tu nous réprimandes selon ce que tu auras décidé en ce qui nous concerne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 3. Verset 7. Et 8. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est un constat qui a apaisé Paul concernant la foi des frères Thessaloniciens. Et nous pouvons également nous regarder nous-mêmes ce soir concernant la foi que tous ceux qui ont reçu des coups durs pendant ces 2, 3 dernières années, pourvoyant leur foi, cela peut être un sujet de consolation pour l'assemblée dans son ensemble. Parce que c'était un sujet d'angoisse pour Paul. Il s'inquiétait. Les Thessaloniciens ont passé des moments difficiles. que lui appelle comme étant des afflictions. Nous nous souvenons aussi des moments difficiles que nous avons passés depuis 2022, 2023, 2024, et même si on va maintenant au-delà jusqu'à l'année 2000, n'est-ce pas? Nous connaissons, il y a certains frères qui sont partis, tout simplement parce que dans cette assemblée, il arrivait beaucoup de malheurs. Hein, se disant que c'est une assemblée qui porte beaucoup de malheur, mais certains sont partis. Pourtant, les choses arrivent. Ce n'est pas nous qui les choisissons. Les bonnes choses arrivent, nous disons merci Seigneur. Les mauvaises choses arrivent, nous disons merci Seigneur. Ce que nous voulons, c'est demeurer dans la foi. Dans certaines autres communautés, certains ont carrément, après avoir été secoués, ils ont carrément abandonné la foi. Ils ont fait naufrage dans la foi. Au verset 3, l'apôtre dit, ceci toujours le même chapitre, « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. » Oui, ils en bavaient, excusez-moi l'expression. Au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Jésus nous dit dans Jean 16, 33, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Et nous marchons sachant cela. Quand elles arrivent, nous demandons tout simplement la grâce de Dieu pour que nous puissions continuer la marche toujours sans baisser les bras. Au chapitre 2, verset 2, verset 5, il dit « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. » On ne vient pas vous dire, vous savez, il ne vous arrivera rien. Non. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, ce n'est pas pour l'argent. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous. Paul n'a pas cherché ça, ni des autres. Il ne cherchait pas ce que les Thessaloniciens le glorifient. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. C'était des sentiments très forts qui le liaient avec les Thessaloniciens. Et sachant que les Thessaloniciens passaient des moments excessivement difficiles, ils s'en étaient inquiétés. Ils s'en étaient même angoissés, n'est-ce pas? À tel point que lui voulait retourner en Thessalonique pour voir dans quel état les Thessaloniciens étaient après tout ce qu'ils ont enduré. Mais il y a quelqu'un, Satan, qui l'en empêchait. Les choses qui nous arrivent, nous ne savons pas ce que Satan est allé raconter là-bas en haut. Il en a l'entrée, Dieu lui a permis. Lorsqu'il va là-bas, il nous accuse. Et lorsqu'il nous accuse, mon lion, c'est un peu comme, nous parlerons un peu de Job aussi, Dieu, quand il est confiant avec la foi que nous avons, nous savons que la foi est un don de lui. Amen. C'est un don de Dieu. Et nous allons le lire. Et sachant que c'est lui qui nous a donné la foi, vous savez, cet homme qui avait son fils lunatique, qui allait dans le feu, faisait, de ce qui se faisait du mal, et ainsi de suite. C'était Satan qui faisait ça. Et quand Jésus est arrivé, il avait un certain doute parce que les disciples ont prié pour son fils. Il a demandé à ce qu'on prie pour lui, mais les disciples n'ont rien pu faire. Ce qui fait qu'il avait un certain doute. Et Jésus lui a dit, quoi? Et voyant que sa foi était chancelante devant ce problème, il lui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Ouais. Ce sont des choses dont quand les Thessaloniciens restent fermes dans le Seigneur, ben, il y a, c'est un exemple en ce qui nous concerne au travers des moments par lesquels nous passons. Et Paul donc s'en est inquiété. Comme lui ne pouvait pas aller, il a envoyé Timothée. Versets 1er et 2 du chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. C'était vraiment un problème lourd en ce qui concerne Paul. Et c'est un problème lourd en ce qui nous concerne, nous tous, lorsque ces choses arrivent hier, pas hier, avant-hier. J'étais chez ma dentiste, je l'appelle ma fille, c'est la fille d'une ancienne collègue à ma femme. Elle est musulmane. Alors elle m'a demandé, mais comment est-ce que vous... On peut s'accrocher à Dieu, je lui ai parlé de la Normandie, des guerres et tout ça avec les hommes. Comment est-ce qu'on peut s'accrocher à Dieu avec toutes ces choses? Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, tu es médecin. Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, il faut que ces choses-là arrivent. Quand ces choses-là arrivent, là, on peut voir qu'il y a un Dieu. Quand tout va trop bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne sait pas vérifier. On ne sait pas voir. Comme toi, tu es médecin. Tu es médecin parce qu'il y a des malades. Elle a dit, oui. S'il n'y avait pas de malades, on n'aurait pas eu besoin de médecine. Oui. Il y a certaines choses qui doivent arriver pour que nous puissions voir la main de Dieu. Pour que nous puissions voir que la parole de Dieu, c'est du solide, il faut que les tempêtes soufflent. Quand les tempêtes soufflent et que l'on tient, on voit que, et que l'on s'accroche à cette parole, on voit que c'est réellement ce qui est dit, qui est vrai, selon la parole. Alors, Paul s'en est inquiété, il a envoyé Timothée. Et Timothée est revenu avec d'excellentes nouvelles. Nouvelles montrant que Dieu a fait grâce aux Thessaloniciens, au verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. Cela l'a apaisé. Il t'amène à ça. Hein, comme un ancien. Alors nous avons. Josias qui jouait la musique ici. Hein, Josias est parti en Tunisie. Ben, il apprend qu'il arrive des choses là-bas. Le frère est parti encore en France. Hein. En France, il apprend qu'il est arrivé des choses ici. Il s'enquiert de nos nouvelles. Non, non, les frères sont bien. Ça soulage. Oui, ça soulage. Et quand on se retrouve loin, au Congo par exemple, on apprend que telle chose arrive dans l'Assemblée, on s'inquiète, on téléphone. Donne-moi les nouvelles de l'Assemblée. Ah, mais si on vous dit non, l'Assemblée tient, ça vous apaise un peu. Et de votre amour, il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Et il avoue, nous l'avons lu, en conséquence, frère, dans nos angoisses, il a été angoissé. Alors, qui est responsable de toutes ces afflictions, de toutes ces angoisses, qui est responsable de ce que Paul veuille aller, qui a fait quoi pour que Paul insiste pour aller chez les frères, chez les Thessaloniciens? Faut pas chercher loin. On le connaît. Oui, dans le chapitre 2, verset 17, il dit, pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de nous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois j'ai essayé, mais Satan nous en a empêchés. On n'oublie pas ça, c'est Paul qui nous le dit. Poussé par le Saint-Esprit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous n'oublions jamais ça. C'est Satan qui l'a empêché d'aller voir les frères. Et au verset 5 du chapitre 3, on va pas très loin. Ainsi, dans mon impatience, il était impatient. Lorsque Timothée est allé, il attendait Timothée avec beaucoup d'impatience. Dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. C'était quelque chose qui le tenait vraiment à cœur. Comment vont les frères? Oui. De votre foi, dans la crainte que le tentateur, qui est le tentateur, c'est toujours le même, le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Et c'est ce que justement Satan essaye de faire, c'est que le travail de l'évangélisation soit vain. Mais il ne peut pas être vain, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de vain. Quand Dieu fait quelque chose, c'est sûr qu'elle va s'accomplir. Quand il a résolu quelque chose, elle s'accomplira certainement. Satan peut gesticuler comme il veut, il peut prendre tous les défis qu'il veut, mais si Dieu relève le défi, Dieu ne perd jamais. Il a toujours été vainqueur dans tous les défis. Même quand tout semble être contre lui, à Golgotha, quand il a expiré le Seigneur, tout semble être contre lui, mais il est sorti vainqueur du tombeau. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est qui? La honte va à qui? La honte ne va pas à Dieu, la honte va à Satan. Honteusement, il constate son échec. Et eh bien, les Thessaloniciens, certainement Dieu lui a dit, tu as vu mes enfants là-bas, quand ils s'assemblent, comment ils me louent, comment ils me servent, eh bien, il n'y a pas d'autre assemblée comme la leur. Oh, mais c'est parce que tu leur as tout donné, tout va bien là-bas, tout se passe bien. Et il y a plein de choses, ils ont plein de choses. Tout va très bien pour eux, ils n'ont pas à se plaindre. C'est vrai qu'on ne se plaint pas. Mais laisse-moi seulement faire et tu verras. Mais Dieu dit, vas-y. Maintenant, si Dieu lance un défi comme ça nous concernant, cela nous relève encore dans notre foi. Cela nous pousse même à le louer. Et cela nous donne la chair de poule de savoir que Dieu nous aime à ce niveau-là. Que Dieu prend un défi me concernant. Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux avec mon fils là, avec ma fille là, et il ne cédera pas. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Que Dieu puisse avoir un tel témoignage de vous ce soir. C'est pourquoi Dieu a jugé digne que nous arrivions à ces choses-là. Hein? Le frère, il perd sa sœur et sa mère en l'espace de quelques mois. La grande sœur perd ses deux enfants en l'espace de 2 mois. Comment est-ce qu'ils vont tenir? Mais ils tiennent toujours. C'est quelque chose d'incompréhensible. Hein? La sœur là-bas perd son fils. C'est incompréhensible. Mais nous le louons toujours. Et quand Nous voyons le genre de réunion qu'il nous donne, comme on a eu dimanche. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous sommes des gens heureux. Ça ne se voit peut-être pas, mais nous, on le ressent. Et eh ben, en Thessalonique, ils sont restés fermes dans le Seigneur. Quand la sœur m'a appelé tout à l'heure, j'ai voulu vous annoncer, juste dire, vous savez, une Thessalonicienne m'a appelé, une sœur. C'est vraiment une Thessalonicienne. Parce qu'elle est arrivée là-bas au Congo, elle a encore trouvé un autre deuil, son frère. Mais elle tient toujours. On se pose la question, comment est-ce qu'on peut tenir dans ces situations-là? Si Satan, si Dieu a permis à Satan, c'est parce que Dieu vous sait capable de rester ferme. Ils sont demeurés fermes dans le Seigneur. Et vous êtes de ceux qui font échec à Satan. C'est pas merveilleux, ça. Hein? C'est que tout le monde entier craint, nous, on lui fait échec. Et pourtant, on est si petit. C'est le même Satan qui a accablé, humilié même Job. C'est le même. Ce n'est pas un autre, c'est le même. Job, chapitre 1er. Verset premier. Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. C'est sa particularité. Sa particularité n'était pas, il était grand, il était costaud, ou riche, certainement il avait beaucoup de biens, mais Dieu ne retient pas sa richesse. La Bible, le Saint-Esprit, ne parle pas de sa richesse. Ça ne l'intéresse pas. La Bible regarde à son intégrité et à sa droiture. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et Satan, alors, on donne ses enfants, sa famille. Il avait une belle famille. Il lui naquit sept filles, sept fils et trois filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est ce que lui pense. C'est que Satan veut, c'est nous causer, nous pousser au naufrage concernant la foi. Dieu veut, Satan veut que nous perdions la foi. Il en a à notre foi. Parce que notre foi est une arme redoutable contre lui. C'est une arme. Hein? Éphésiens chapitre 6. C'est un véritable bouclier. Donc, pour quelqu'un qui a la foi, Satan, quand il lui tire dessus, ben, ses tirs sont vains. Ça n'atteint pas la personne qui a la foi. Ça peut l'atteindre physiquement, mais la personne, l'homme intérieur, la femme intérieure, elle n'est pas atteinte. Il dit, par-dessus toutes les autres armes, d'abord, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, tenir ferme, les Thessaloniciens ont tenu ferme afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'oublions jamais ça. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, vous savez, les lieux célestes, c'est où? C'est le domaine où, le domaine de la vie chrétienne, si vous voulez. Là où les chrétiens sont. Satan n'est jamais loin. Les gens qui sont en dehors de ces lieux-là, Satan n'a pas besoin d'aller les chercher. Ils sont déjà à lui. Oui. Quand Satan vient combattre, il ne vient pas combattre contre eux. C'est contre nous. C'est contre nous qu'il vient combattre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme, ah, se tenir ferme. Ça veut dire que vous n'êtes pas ballotté après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, sans exception. Tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, Satan en a à votre foi. Il veut que nous en arrivions à douter. Est-ce que les choses que nous venons écouter ici, est-ce vraiment la vérité? Si ce n'était pas la vérité, il nous laisserait peut-être tranquille. Certainement tranquille. Avec de temps en temps des petites. De toute façon, il y a des secousses qui arrivent à tout le monde. Parce que quand, dans Matthieu 7, Jésus dit, le vent souffle sur les deux types de maisons. Tant celles qui sont bâties sur le sable que celles qui sont bâties sur le roc. Les mêmes vents soufflent. Personne n'a de vent particulier. Hein, nous avons tous les mêmes vents, Matthieu 7. Les mêmes torrents. Dieu ne nous a pas donné un vent faible. Non, c'est un vent fort qui vient, qui détruit. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La même pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oui. Mais vous êtes de ceux qui tiennent ferme. Donc, il a retiré à Job sa famille et même sa santé, tout ce qu'il avait dans sa vie. Mais Dieu avait confiance en Job. Pourquoi Dieu avait confiance en Job, le croyant? Tout simplement parce que Dieu lui avait donné la foi. Ce n'est pas une foi fabriquée, c'est une foi qui vient de lui, qui vient de Dieu lui-même. N'est-ce pas? C'est la foi que vous avez là, qui tient le coup dans des situations difficiles, c'est une foi que Dieu vous donne. C'est vrai qu'elle vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. C'est parce que la parole de Christ, elle agit. Elle est agissante. Et comme elle est agissante en vous, eh bien, elle produit cette foi-là qui fait que ce qui est dit, c'est vraiment la vérité. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous savez ce que c'est qu'une carrière? C'est là où on brise les pierres, les cailloux, et ça blesse, n'est-ce pas? Ça écorche, c'est vrai, mais quand on court dans cette carrière, on persévère. Restons persévérants, avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. Ne regardez pas, pendant que vous courez dans la carrière, ne regardez pas au frère François. Ne regardez pas au voisin. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Pourquoi? Il suscite la foi, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Lui va faire de sorte que votre foi soit une foi parfaite. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. S'il est assis à la droite du trône de Dieu, ça veut dire que tout pouvoir, d'ailleurs il le dit, tout pouvoir lui a été donné par le Père. Ça va? Alors, non. Satan en a à votre foi. Satan en a à ma foi. Il essaie de venir me faire douter. Est-ce que tu crois en ce que tu prêches? Il essaie de venir vous faire douter. Est-ce que vous croyez en ce que vous entendez? En ce que vous dites amen? Est-ce que vous y croyez? Ben, vous dites oui, j'y crois. Oui, mais et ça? Et ce qui est arrivé là? Et ça? Qu'est-ce qui est arrivé là? On m'a demandé, mais, frère François, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bien-aimé, moi, je n'ai pas d'explication. Si Dieu me la donne, je te la donnerai. Mais je n'ai pas d'explication. Je ne veux pas inventer. Je sais que ça fait mal. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Sinon, nous accrocher à Dieu. Il ne faut pas prendre ça comme une fatalité. Nous devons avoir confiance en Dieu. Aux Thessaloniciens, Paul dit, c'est là, il va leur parler de l'enlèvement. Et même Thessaloniciens, au chapitre 4, mais on ne lira pas. Il va leur dire, soyez affligés, d'accord, mais pas comme ceux qui sont sans espérance. Donc c'est ce même Satan qui nous accable aujourd'hui, et il a commencé depuis longtemps, depuis le commencement, mais il y a des endroits où nous pouvons le voir plus ou moins clairement, parce que si c'est trop lointain, on ne voit pas. C'est peut-être un peu moins lointain ici. Dans Luc 22, Jésus le dit. Il le dit aux disciples. Verset 28. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Le chemin n'a pas été facile. Et quand vous lisez justement l'Épître aux Thessaloniciens, au début, Paul dit qu'il a prêché l'évangile de Dieu au milieu des combats. Il a été combattu. Jésus également, il a été combattu. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il a été éprouvé. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous secouer, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, pourquoi? Pour que le crible cesse? Non. J'ai prié pour toi, pour qu'on arrête à te secouer? Non. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Vous voyez? Dieu, Le Seigneur n'a pas prié pour que les secousses s'en aillent. Il a prié pour que notre foi, pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous vous souvenez, on vient de lire où Paul dit à Timothée pour qu'il aille affermir les frères. Ouais. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles. Affermis tes frères. Bon, Pierre et les autres disciples, pourquoi est-ce que Satan voulait les cribler? Mais Pierre et les autres disciples, c'était des croyants. Des croyants, comment? Comme vous, là, ce soir, ils croyaient que Jésus était le Christ. Et ça, Satan ne veut pas que vous croyiez qu'il est le Christ. Jean chapitre 6. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint d'Israël, le Saint de Dieu. Et là, c'était une déclaration de guerre vis-à-vis de Satan. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Oui. Croire que Jésus est le Christ, c'est une révélation qui vient d'en haut. Et reconnaître le Christ aujourd'hui, au milieu de vous, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ça va? Hein? C'est ce que l'apôtre dit dans Corinthiens, vous connaissez cela? 1 Corinthiens 12. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Hein, c'est ce dont on a parlé dimanche, n'est-ce pas? Hein, où l'homme adore tout. Il adore sa voiture. Il adore une statue que lui-même a faite. Il adore tout. J'adore. Il adore son plat. Il adore. Selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Hein? Or, Satan est parti dire là-bas, en haut, nous accuser que si il nous accable de tous les malheurs qui nous sont arrivés, nous allons maudire Dieu, et nous allons maudire Jésus-Christ. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, Paul dit, on ne dira jamais ça. Anathème, ça veut dire maudit. Ça va? Si un ange du ciel nous dit qu'il soit anathème, c'est exactement la même chose. Donc, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Personne par l'Esprit de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne maudirez jamais Dieu, quoi qu'il vous arrive. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pleurerez peut-être, mais vous bénirez toujours Dieu. Comme Job a pleuré, Job s'est assis sur la cendre. Il s'est gratté avec un tesson, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il reste toujours le Saint-Esprit. Ouais. Et il reste toujours le Seigneur, pardon. Et quand nous disons cela, nous ne le disons pas de par nous-mêmes. C'est l'Esprit qui nous le fait savoir. C'est le Père qui nous dit, puisque nous sommes nés d'esprit et d'eau, c'est le Père qui nous dit que nous sommes, que c'est le Christ qui est là.
Et vous le voyez avec les yeux de la foi. Ça va? Vous voyez le Seigneur avec les yeux de la foi. Comme celui qui voit la feuille bouger avec ses yeux naturels et il dit qu'il y a du vent. Ça va? Si on vous demande, vous, à l'intérieur de la maison, est-ce qu'il fait venteux dehors? Vous n'avez qu'à regarder, hein. Vous regardez les arbres, vous regardez ce qui se passe, et vous avez, ah non, il y a pas de vent. Oh oui, il y a du vent. Oui. Mais vous ne voyez pas l'air se déplacer, mais il y a du vent. Le vent a ses effets. Jésus a aussi ses effets. Lorsque Jésus agit sur quelqu'un, on le voit. On voit ça, c'est le Seigneur. Quand Jésus parle, on sent que c'est Jésus. Quand c'est l'homme qui parle, ça c'est l'homme qui parle. Amen. Parce que l'esprit reconnaît les choses de Dieu. Et alors, quand on vous demande, qui dites-vous que je suis? Quand il vous pose la question, eh bien, il n'y a que le Père en haut qui peut vous le dire. Matthieu chapitre 16. C'est une révélation. Croire que Jésus est le Christ, nous avons cru que tu es le Christ. Croire qu'il est le Christ, cela ne vient pas d'eux-mêmes. Cela ne vient pas de la chair et le sang. Cela vient d'en haut. Matthieu 16. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Là, les uns, ils voient l'homme. Oui, ils voient un homme, hein, ils mettent le nom à l'homme, c'est Jean-Baptiste. Les autres disent Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. D'autres vont, si on vous demande qui est le fils de l'homme aujourd'hui, d'autres vous diront c'est le frère Branham. Vous voyez, ils voient l'homme, mais avec l'esprit, et vous, leur dit-il, vous qui avez l'esprit de Dieu, vous qui en avez, si jamais vous avez la. Et vous, maintenant, ça, c'est ce que les autres disent. Ils viennent vous dire que le frère Branham, c'était le fils de l'homme. Ils viennent vous dire ceci et cela. Maintenant, vous, à la rue de Firla, qu'est-ce que vous dites? Que dites-vous qu'il est? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Tu es béni, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est une révélation qui vient tout droit de Dieu. Là où quelqu'un va vous dire, ça, c'est le frère Branham, vous saurez, c'est le Fils de l'homme. C'est Dieu, c'est Christ lui-même qui le fait. Là où un chrétien viendra vous dire, c'est Christ, l'homme idolâtre vous dira, c'est frère Branham. Nous, on ne confond pas frère Branham avec le Seigneur. Frère Branham, c'est frère Branham, il est mort et enterré. Christ est mort, enterré, et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et nous comptons sur lui. Amen. On peut m'amener autant de citations qu'on veut, mais les lire en planant. Mais quand tu me lis les citations en planant, moi je ne vois toujours pas Christ. Moi je vois Christ quand je vois les œuvres qu'il faisait avant. Quand il était sur la terre, nous faisons les mêmes œuvres. Nous en ferons même davantage. Amen. Alors, lire la Bible en planant, Jésus ne l'a jamais fait. Dites amen à ça. Celui qui fait ces choses-là, c'est Satan. C'est Satan qui va vous faire planer et faire lire les brochures en planant. Jésus n'a pas besoin de vous faire lire ça en planant. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc de révélation, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette révélation-là. Prévaloir, c'est vaincre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui. C'est une révélation. La foi est une révélation. Et Satan déteste la révélation. Parce que la révélation de qui est Dieu vous rend inébranlable. Et les frères en Thessalonique avaient la révélation. Et quelqu'un qui tient le coup dans ses malheurs, il a la révélation. Et Dieu console. Lorsque ces malheurs frappent, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ces moments-là où Dieu vous console. C'est dur, mais Dieu vous console. Quand vous avez cette révélation, c'est Frère Branham qui dit ça, peu importe ce que sont les circonstances, vous restez inébranlable. Et Dieu a confiance en la foi qu'il a mise en vous. Il sait que vous ne renierez jamais cette foi-là. Parce que la foi en question, elle vient de lui. Nous l'avons lu. Nous sommes donc ici à la rue de Firland. Nous sommes des Thessaloniciens. Parce que parmi nous, ce soir, nous avons de bien-aimés qui sont passés par des situations difficiles. N'est-ce pas? Moi, je vois ce frère là derrière, tragiquement, il a perdu son épouse. Oui. Il y en a qui ont perdu une sœur. Tragiquement, un fils, deux fils. Une mère, un époux, un papa. Précieux frère en Christ. En 2-3 ans. Mais nous demeurons fermes. Parce que nous avons cette promesse. Cette promesse qu'un jour, il y aura une résurrection. Qu'un jour, il y aura un enlèvement. Et quand Paul voit que la foi des Thessaloniciens tient ferme malgré tout ce qui leur est arrivé, c'était pour Paul une occasion de rendre de multiples actions de grâce. C'est pourquoi nous rendons des actions de grâce. Quand nous le pouvons, nous ne pouvons que le faire, voyant que malgré tout cela, l'Assemblée continue toujours à fonctionner. Eh bien, nous venons, nous lui rendons grâce. Nous sacrifions, puisque ce sont des sacrifices que Dieu demande, nous sacrifions des jours fériés où nous pouvons dire, ah, aujourd'hui enfin, nous sommes quand même dégagés des réunions à l'Assemblée, nous sommes dégagés de boulot, hein, tout ça, je peux faire la farniente, eh bien, on ne fait pas de farniente, on vient quand même à l'Assemblée. Mais repose-toi quand même. Non, j'ai envie d'aller à l'Assemblée, dire merci à Dieu. Hein. Dans Thessaloniciens 3:9, Paul, quand il dit cela, en verset 8, il dit, maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Ça nous donne la joie. Et Satan est embêté quand il voit ça. Nous encaissons des coups, mais nous rendons quand même grâce à Dieu. Ça l'énerve. Il aurait préféré que nous pleurnichions. Mais nous ne pleurnichons pas. Nous avons confiance en qui nous avons cru. Et si nous tenons le coup, vous savez, Pierre, la secousse était dure, hein, la secousse qu'ils allaient, que les pierres ont reçue. Eh bien, cette secousse, ces secousses-là, elles ne nous sont pas épargnées. Nous, de même, nous les aurons. Si le Seigneur a prié pour Pierre, lui qui ne fait point exception de personne, il a aussi prié pour vous et pour moi. N'est-ce pas ? Jean 17. Verset 6. Le Seigneur prie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous connaissez le nom, n'est-ce pas?
Oui.
Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et verset 8, c'est ce que vous avez fait. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Vous les avez reçues, ces paroles. N'est-ce pas? Vous avez reçu le message que Dieu a envoyé en ces temps-ci aux croyants. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Est-ce que vous le croyez? Ah, Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Maintenant, vous dites, oui, mais frère François, ça, c'était pour les disciples qui étaient là. OK? Toujours dans la même prière, il dit au verset 20, eh bien, ce n'est pas pour les disciples seulement. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi, au futur, par rapport à ça, ça, c'est vous et c'est moi. Vous vous retrouvez dedans, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu. Mon nom n'y est pas, mais je suis dans le ceux. Votre nom n'y est pas, vous êtes dans le ceux. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, dites-moi. D'abord, je leur ai donné la gloire que tu m'as envoyée, que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, une fois que vous êtes en Christ, en Dieu, qui peut venir vous enlever de là? Qui peut venir vous sortir de là? Paul dit carrément à Satan, il dit... Écoute, ne te fatigue pas. Ni la mort, ni la famine, tu peux me crever de faim. Hein? Il dit tout ça. Hein? Il lui cite, écoute, tout ce que tu peux faire avec moi, ni la tribulation, ni l'angoisse. Paul était angoissé, mais ça ne l'a pas sorti de ce qu'il prêchait, n'est-ce pas? Il était certain de ce qu'il prêchait. Comme vous êtes certain de ce que vous avez cru. Il dit, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée. Rien de tout ça. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne suis pas inquiet. Il dit, j'ai l'assurance. J'ai de l'assurance en tout cas. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est impossible. Aussi, ce soir, je suis un frère heureux parmi vous. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Même mes enfants sont mes frères et mes sœurs, n'est-ce pas? Nous sommes frères et sœurs, nous sommes, bien sûr, dans ces frères et sœurs, nous avons, j'ai des enfants, hein, des enfants hein, comme Paul en avait. Hein. Mais, vous savez, nous sommes un, rien de tout ça ne pourra nous séparer. Dans cet amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Je vous aime et je sais que vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse richement. Restez ferme dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Vous demeurez ferme dans le Seigneur. Oui, Père Céleste, tu nous as armés, tu nous as équipés pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent, vent d'épreuve, vent de doctrine, à toute espèce de vent, mais que nous soyons bien ancrés. Nous ne voulons pas être comme ces cerfs-volants, n'est-ce pas, qui sont ballottés par le vent, conduits par le vent, mais nous voulons être ancrés. La marée peut venir, mais nous demeurons ancrés. La marée peut se retirer, nous restons toujours ancrés. Nous ne bougeons pas. Sois béni, mon Père Céleste. Sois loué pour toutes choses. Ô Père, nous te remercions pour ce jour. Nous restons fermes, nous demeurons fermes dans le Seigneur. Malgré tout ce qui nous est arrivé, te disons merci. Ne te demandons pas que nous en soyons accablés. Mais si tu nous as jugés dignes de passer par là, nous savons que tu es celui qui nous affermira toujours au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Ô Père, ou même au travers d'un quelconque événement, là où tu agis, parce que avec tes enfants, tu es avec eux tous les jours, ô Père, jusqu'à la fin du monde même, selon la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Nous te bénissons, te remercions. Te remercions pour la réunion que nous avons eue ce soir. Te remercions pour tous ces bien-aimés qui sont passés par des moments difficiles. Un jour, aujourd'hui, ils jouent les instruments à la gloire de ton nom. Certains chantent ou ils font chanter. Oh, certains te servent d'une manière ou d'une autre. Oh Père, malgré tout, ils continuent à t'aimer. Cet amour, rien ne peut les séparer de toi. Que tu les bénisses, que tu bénisses chacun d'entre nous. Et ceux qui n'ont pas pu venir, sois avec eux. Accompagne-nous dans nos maisons ce soir et laisse-nous prendre, oh, aide-nous à prendre plaisir dans ta parole. Et lorsque chaque occasion de te rendre grâce viendra, nous te rendrons de grâce. Oh Dieu, nous ferons des actions de grâce, oh Dieu, pour te rendre la gloire et l'honneur qui te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Nous te remettons aussi en son nom, oh Père, notre retour entre tes mains. Et si tu tardes à venir, que nous puissions nous revoir en paix vendredi, ô Dieu, autour d'une bonne parole encore, qui réjouisse nos cœurs, qui nous rassure au milieu de toutes ces difficultés. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et à la fin du combat, il a gardé la foi. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.